On va tenter de vous expliquer un peu sur quoi on travaille avec ce projet qui est la première étape, donc Follow the Water, ce triptyque filmique, qui est la première étape pour nous d'un travail d'enquête artistique qu'on mène depuis maintenant 2 ans sur le territoire notamment chilien du désert d'Atacama, mais pas seulement. Et on va partir de là pour essayer de dérouler peut-être ensemble une rencontre qu'on aimerait qui ait lieu un peu comme une conversation. Donc surtout, n'hésitez pas à intervenir, à poser des questions, etc. Ça, disons, c'est pas formel de dire ça. C'est aussi que ça nous aide, nous, à préciser, à rentrer dans la matière, puisque on a démarré cette enquête il y a 2 ans avec le projet dans l'ensemble s'appelle Occupy Mars, qui est donc une volonté de, comme tout est dit dans le titre, d'occuper la planète rouge comme miroir contemporain à notre situation terrestre. Alors, je vais vous expliquer comment on en est arrivé jusque-là, comment on est arrivé jusqu'à Mars depuis le désert d'Atacama. Alors, je vais essayer de faire aussi un peu comme un déroulé à partir de Follow the Water, en imaginant que personne n'a vu ce film, mais pour reprendre aussi un peu l'historique. Et Clément va me seconder, me compléter, m'interrompre au long de ce déroulé. Donc, tout ce projet a commencé il y a 2 ans. Moi, j'étais invitée à Santiago, à la Biennale d'art contemporain, là-bas. Et puis, bon, dans mon travail, comme souvent, on a des moments comme ça de démonstration, mais que moi, j'essaie de coupler avec des moments de travail et de production. Donc, j'ai essayé de travailler avec les gens là-bas en disant, ah, qu'est-ce que je pourrais venir filmer, c'est-à-dire pas seulement montrer quelque chose, mais aussi filmer. Et assez vite, on est venu sur le désert d'Atacama en me disant, ah, bah, ce désert, c'est un désert important, qui est riche culturellement, aussi pour plein de ressources et d'enjeux économiques, mais pas seulement. Il y a notamment tout le travail du réalisateur que vous connaissez peut-être, Guzman, qui a beaucoup travaillé, Nostalgie de la lumière, qui est un des films qui a eu beaucoup de succès en France, autour justement de ce désert, de la valeur de ce désert vis-à-vis de la dictature, etc. Enfin voilà, tout un autre sujet, mais bon, voilà, il y avait ce désert. Et c'est un lieu qui, disons, par rapport à la science, est un lieu assez important puisque c'est un lieu qui est très proche du ciel. Et donc, c'est là qu'il y a beaucoup d'observatoires des étoiles et donc des choses liées à mon travail par ailleurs. Et puis, en tournant autour de cet endroit, alors je dis en tournant, c'est assez littéral, mais c'est sur Internet, disons, en regardant, là, je suis tombée sur les mines de lithium. Donc, vu du ciel, les mines de lithium, c'est assez impressionnant parce que c'est des carrés bleu et blanc, comme ça, très géométrique, en plein milieu de rien, d'un désert. Donc, qu'est-ce que c'est? Je commence à chercher et je découvre petit à petit que le lithium, bon, chose que je savais déjà, mais pas tant en fait, mais que le lithium, il y en a partout, on en a besoin pour tout. Et surtout, nos besoins en lithium sont croissants, notamment depuis la pandémie. Alors là, c'est encore fulgurant, mais bon, on en a besoin pour tout, tout le temps. Et c'est une ressource qui est décrite comme une ressource naturelle et propre. Donc, je commence à chercher, je me pose des questions et je me dis, ah ben, tiens, on va aller filmer ça. Donc, j'ai invité Clément à me rejoindre pour essayer de travailler autour de ces mines de lithium. Et puis, en allant sur place, en tournant autour de ces mines, en filmant, donc un peu avec des moyens relativement rudimentaires pour la première expérience, on tourne, et là, on tombe nez à nez, littéralement, avec un rover et une équipe de la NASA, ils étaient cinq, une équipe de la NASA qui travaille à essayer de faire des trucs dans le plat. Mais bon, le désert est très grand, hein, au milieu de rien. Alors on se dit bonjour, bonjour, qu'est-ce que vous faites là? On commence à discuter et là, on se rend compte qu'en fait, ce désert est ce qu'ils appellent un terrain analogue à Mars. Et donc, c'est l'endroit sur Terre qui ressemble le plus à la planète rouge. Et alors, bon, moi, il y a 2 ans, j'ignorais à peu près tout de la conquête spatiale et martienne. Donc, je dis, ah bon, Mars? Ah, parce qu'on va sur Mars, d'accord, on envoie des machines. Mais alors, qu'est-ce qu'on y cherche et pourquoi et quels sont les enjeux? Et au fil du temps, on commence à comprendre que les enjeux martiens sont des enjeux alors à la fois de conquête ou de découverte scientifique, mais évidemment pas seulement, notamment des enjeux de conquête économique, des enjeux bien plus loin de solutions possibles, pourquoi pas de seconde planète pour un tas de gens. Et voilà, donc on se dit, waouh, c'est quand même quelque chose qu'on ignorait jusque-là et qui mérite d'être questionné. Et surtout, ils s'entraînent juste à côté des mines de lithium. Donc, les mines de lithium, il faut pomper très bas dans l'eau, dans les nappes phréatiques, pour sortir l'eau préhistorique maintenant, parce qu'il faut aller de plus en plus loin. Donc, ce pompage permet de récupérer l'eau qui font évaporer dans des bassins. De ces bassins naît le lithium, donc du sel de lithium, qui ensuite est transformé pour nos batteries, nos téléphones, pour aussi des antidépresseurs d'ailleurs, parce que c'est un stabilisateur d'humeur. Et donc, on se dit, tiens, qu'est-ce qu'il y a là entre un double mouvement, comme ça, sur un même territoire, entre aller chercher très loin dans la Terre et aller chercher très loin dans l'univers quelque chose qui pourrait peut-être nous renseigner sur notre origine, j'y viendrai plus tard, mais aussi peut-être être une volonté de conquête et potentiellement une échappée vers quelque chose de différent. Bonjour. Et donc, ce double mouvement là, de pomper très, très bas et d'aller très loin nous semblait être un terrain d'enquête intéressant et un reflet aussi peut-être de plein de choses qui se passent à d'autres niveaux mondiaux. Un peu comme si le désert d'Atacama était un espèce de laboratoire, un territoire comme un miroir voilà, de notre situation actuelle. Je continue? Et donc, on a commencé à travailler justement en se disant, tiens, qu'est-ce qu'on peut relier de ça et comment est-ce que Mars, alors sur Terre, mais Mars est un écho ou est un endroit où on peut apprendre des choses de la Terre. Et en fait, en cherchant par différents biais, c'est-à-dire autant scientifiques que philosophiques, que artistiques, que imaginatifs, enfin, à plein d'endroits différents, on s'aperçoit que le miroir que ça nous renvoie peut nous permettre de réfléchir à notre situation. Et donc, pourquoi on va sur Mars? On va sur Mars parce que la Terre est un... Mars est une sœur jumelle de la Terre, donc en termes de constitution et de formation de planète. C'est ce qu'on appelle une sœur jumelle. Et donc, on va sur Mars, en réalité, pour découvrir comment l'origine de la vie et comment la vie aurait pu apparaître sur Mars et donc apparaître sur notre propre planète. C'est-à-dire que nous, on n'a pas de traces de roches du moment où nous, sur Terre, on aurait vu l'apparition de la vie. Nous, on ne l'aurait pas vu en tant qu'humain, mais je veux dire, il y aurait eu l'apparition de la vie. Par contre, il présuppose que sur Mars, on pourrait voir ces traces-là. Et donc, et ça aussi, c'est saisissant, on va aussi loin pour comprendre notre propre passé terrestre. Donc, ça crée des choses un peu, des conceptions un peu étranges, d'autant que pour nous, et c'était un peu un début de notre travail, on se dit, ah, OK, donc Mars est à la fois une espèce de planète archive, comme ça, un peu boule de cristal qui peut nous renseigner à la fois sur le passé, mais aussi un petit peu sur notre avenir, étant donné que, et ça peut-être les gens le savent moins, mais que, étant donné que pour plein de gens, notamment bon, l'idée par Elon Musk actuellement, mais pour plein de gens, ça pourrait être une espèce de planète B où on pourrait coloniser et s'installer au cas où la Terre ne soit plus suffisamment accueillante, on va dire ça comme ça, habitable pour nous, être humains.
Merci Pauline, tu as posé tous les enjeux et le décor. Quand Pauline m'a invité, elle m'a c'était assez clair, c'était j'ai besoin de quelqu'un qui voyage avec moi, qui peut conduire, qui peut filmer, qui peut écrire, réfléchir, et je crois que c'était à l'image de ce qu'on a rencontré ensuite, c'est-à-dire enfin voilà, le premier voyage il y a 2 ans dans ce désert, et ben on a rencontré tout ce que Pauline décrivait, c'est-à-dire à la fois la mine, à la fois la technologie, à la fois la question de la science, à la fois la question des peuples autochtones, pour le dire très vite, enfin beaucoup de, enfin plusieurs grandes problématiques. Et face à tous ces sujets dans un territoire, enfin tous ces enjeux, toutes ces problématiques dans un territoire certes vaste, puisque le désert fait à peu près 200 km de long, je crois, mais en fait extrêmement aride. Vous pouvez rouler pendant 2 heures, 3 heures pour aller simplement du village à une des entrées du site d'exploitation de lithium. Comment raconter ça? Quel récit nous-mêmes soit aller recueillir, soit injecter, enfin inventer, voilà, tout de suite en fait une question de je dirais une question de cinéma s'est posée à nous, et nous avons travaillé à partir, enfin de cinéma ou de création artistique, mais une question de représentation, comment filmer, comment représenter la controverse autour du lithium, alors que si vous allez sur Internet, sur le site Internet, sur le site web de CNN, par exemple, vous retrouvez tous les documentaires que vous voulez, tous les reportages, et on vous explique absolument tout, et en fonction des idéologies aussi, hein, pro-exploitation ou lutte écologique. Enfin, vous pouvez retrouver aussi les vidéos des militants locaux. Enfin, tout est à peu près déjà disponible. Et le problème perdure et on n'y voit pas très clair. Donc, je crois qu'on est parti de cette question aussi, c'est-à-dire comment appréhender cette mine de lithium? Et la même question pour Mars, parce que donc, Pauline parle très justement de cette tension. Vous êtes dans le désert d'Atacama, on est à un endroit de notre Terre où on creuse très profond et où on regarde très, très loin, quoi. Et donc, dans cette tension, pareil, on ne peut pas tout à fait aller sur Mars, même si, en quelque sorte, nous y sommes déjà. Ça aussi, c'est un des sujets qu'on a travaillé. Mais donc, en matière de cinéma, voilà, on ne peut pas prendre notre caméra, aller sur Mars et aller voir comment le rover, donc l'astromobile, travaille sur ce sol. Et sur la mine de lithium, tout a été à peu près déjà dit, écrit ou transmis. Enfin, il y a des rapports. Voilà. Donc, on part aussi d'un problème assez banal, je pense, en termes de création, mais extrêmement moteur, fortement moteur. C'est tout est dit, tout est déjà montré, et à la fois, on n'y voit rien, on n'y voit pas, on n'y voit pas bien, on n'y voit pas clair. Donc, comment on peut travailler dans cette tension? Voilà, je crois que ça a été le point de départ. L'anecdote, c'est qu'il y a 2 ans, lors du premier voyage, tournage, nous étions plutôt à la recherche de Mars, c'est-à-dire en quoi le désert d'Atacama ressemble à Mars. Donc, on en était même à éviter les indices terrestres, c'est-à-dire les petites végétations qui résistent ou qui, à certains endroits du désert, apparaissent aujourd'hui de manière inhabituelle. Le phénomène du désert fleuri, on pourrait y revenir aussi. Et ou les oiseaux, par exemple, quand vous êtes avec votre caméra, vous enregistrez le son et que vous cherchez Mars, ben, l'oiseau pose question et à la fois est très rassurant. Et le dernier tournage qui a permis de réaliser Follow the Water, donc là en décembre 2021, là on était vraiment plutôt à la recherche de la Terre, enfin, du terrestre. Et je trouve cette anecdote intéressante. On est dans notre travail de représentation, donc de fabrication d'images, de fabrication de situations ou d'enregistrement de personnes sur place, existantes, perdues entre les deux ou quelque part entre les deux.
Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur Follow the Water, sur les grandes séquences, les séquences clés, comme on dit?
Oui, alors c'est un film qui fonctionne sur 3 écrans déjà, donc ça c'est quand même... vital pour le film, qui fonctionne donc à la fois sur une mise en perspective et à la fois sur des moments d'unité. Comme ça. Donc il y a des confrontations, mais il y a aussi des unités. Et tout démarre par un conte qui est une histoire qui nous a été contée là-bas. Une histoire il y a une histoire qui court le long de la cordillère des Andes, donc pas seulement au Chili, mais qui dirait que pendant la conquête espagnole, les peuples indigènes ont caché leurs trésors au fond des lacs pour éviter qu'ils soient volés par les Espagnols, et que dans un de ces trésors, et dans un de ces lacs, très haut caché dans les volcans, il y aurait une boule de cristal. Et cette boule de cristal permettrait à la fois de renseigner le passé terrestre autant que l'avenir de l'univers. Et donc le film démarre là-dessus en disant plusieurs expéditions ont tenté de retrouver cette boule. Et pour l'instant, personne ne l'a trouvée, mais elle continue à clignoter quelque part au fond d'un de ces lacs. Et donc ça, c'est une clé pour tout le film, puisque au-delà des séquences clés, il y a des motifs comme ça qui se répètent. Et la boule de cristal, ou l'idée que quelque chose peut renseigner sur... passé, futur, un peu, ça revient dans tout le film. Et l'idée aussi de la richesse indigène et de la conquête par l'Espagnol ou par d'autres peuples, ça, c'est une tension qu'on retrouve à d'autres endroits dans le film. Donc, tout démarre avec ça, et on est au début, comme ça, dans une plongée dans ces volcans, dans ces lacs en haut de ces volcans chiliens. Et là, on rencontre une plongeuse qui est une scientifique qui s'appelle Nathalie Cabrol et qui, elle, est à la recherche des traces de vie. Donc, c'est une astrobiologiste et elle raconte justement ce que j'essayais de raconter avec mes mots à moi un peu, mais disons, elle raconte un peu comment, dans le désert d'Atacama et sur Mars, on cherche les traces de l'origine de la vie, les premières traces de vie. Alors, pourquoi on les cherche dans le désert d'Atacama? Puisque c'est un terrain analogue à Mars, et aussi parce que donc, si la vie a survécu dans ces conditions extrêmes, puisque le désert est très haut, très sec, très aride, alors on apprend sur comment on peut résister dans des conditions extrêmes, comment la vie a pu apparaître. Et donc sur Mars, avec un parallèle sur Mars, et elle raconte justement cette histoire de terrain analogue et elle raconte un peu qu'on prépare des missions, etc. Donc ça donne un peu la base comme ça du film qui ensuite voyage au travers de plusieurs personnages dans le désert. Je ne vais peut-être pas tous les, parce que ça va être très long, mais je ne vais pas tous les développer. Et le film le fait mieux que je ne pourrais le faire en mots. Mais là, on rencontre plusieurs, disons, plusieurs protagonistes, plusieurs personnages liés à la NASA. On voit le rover, on rencontre aussi le directeur financier de la société SQM, qui est donc la société d'exploitation de lithium. On rencontre Karen Louza, pardon, surtout, qui est la chef indigène locale, qui, elle, est représentante du droit de l'eau dans tout le désert d'Atacama, d'ailleurs. Et elle est représentante indigène, elle est chef de l'eau et elle défend l'eau. Et elle parle dans le film, et ça, c'est pas forcément clair pour tout le monde, parce qu'en plus, à ce moment-là du film, on a un petit problème de sous-titres, donc qui permet peut-être pas de tout à fait saisir ce qu'elle dit, et c'est pour ça que je tiens à le dire là. Elle parle surtout du code des eaux, ou du code de l'eau, qui est un code législatif chilien, qui a été mise en place sous Pinochet et qui vise à diviser les eaux entre elles, donc entre les eaux souterraines et les eaux de surface, et à séparer l'eau de la terre. Et pour elle, cette séparation est fondamentalement critiquable et est le problème de bien des choses, c'est-à-dire qu'on a séparé les choses, donc là pour des enjeux évidemment économiques, puisque c'est une des bases du capitalisme tel qu'il a été appliqué dans cette région du monde notamment. Mais de dire, OK, on peut être propriétaire de la terre, même si on n'est pas propriétaire de l'eau, ou on peut être propriétaire de l'eau, même si on n'est pas propriétaire de la terre. Ce qui peut sembler logique, mais en tout cas un petit peu, enfin logique dans l'économie marchande, mais quand même très très bizarre. Et elle le dit, elle dit pour les populations indigènes et même ancestrales, séparées comme ça, alors qu'elle dit, elle a une très belle anecdote, elle dit, c'est comme séparer les veines des artères, en fait. Et c'est ça, c'est quand même ça qui permet la vie et pour la planète, c'est-à-dire séparer les eaux, c'est une aberration totale. Et ce qui m'intéressait beaucoup, ce qui nous intéressait beaucoup par rapport à ça, c'est qu'au fond, c'est un peu la même chose que Nathalie Cabrol, à un autre endroit, très scientifique, très rationnel. Ça dit aussi des progrès de la neuroscience et de l'astrobiologie qui visent à dire, en fait, tout est lié. Et c'est quelque chose qui est un motif dans mon travail assez récurrent, c'est-à-dire, au fond, ce que dit la science, ce que disent les histoires, ce que l'on ressent en termes individuels, etc. Souvent, il n'y a pas le rationnel et l'enchanté, ou il n'y a pas le spirituel et le rationnel. Il y a plutôt des correspondances et des choses qui sont dites à peu près de la même manière. Et le film raconte aussi, ça raconte qu'au fond, tout est lié et que cette histoire de séparation est sans doute quelque chose auquel être attentif et à critiquer le plus vivement possible.
Pour le coup, le principe du laboratoire Espace-Cerveau, notamment depuis 2016, mais bien avant aussi, c'est comment travailler un projet cosmomorphe où tout est lié justement et où la dualité, on va dire, du rationnel et du non rationnel, la dualité de l'humain et du non humain, tous ces dualismes sont mis en perspective pour justement s'effacer progressivement. C'est vraiment à l'égard de ces dualités-là que ce laboratoire travaille en premier lieu pour essayer de trouver des voies autres. Et en effet, ça demande beaucoup de, justement, dans l'interdisciplinarité, beaucoup de croisements, de temps aussi de ces croisements, mais là où on voit que l'art fait imaginaire, c'est-à-dire que ce que le laboratoire Espace-Cerveau propose, c'est imaginaire partagé. Or, c'est vraiment avec, alors, image, imaginaire, c'est un peu simple, ça peut être aussi des espaces, ça peut être des pensées ou des œuvres sous forme de pensée, mais en fait, que l'art puisse être un vecteur de partage d'imaginaire. Et je pense que là, on est typiquement au cœur de notre préoccupation. Comment, à un moment donné, une fois que tout ce que vous venez de dire tous les deux, suite au film que vous venez de voir par ailleurs, qu'est-ce que ça peut provoquer, interroger chez vous, dans le cadre de cette conversation très libre et informelle que nous souhaitons mener? Quelqu'un serait-il justement petite question là qui surgirait à ce moment-là. On n'est pas obligé non plus, hein, donc allez-y.
Une question, mais qui n'est pas forcément en lien.
Un petit peu plus fort.
Je voulais bien poser une question, mais qui n'est pas forcément en lien avec cet imaginaire-là. Enfin, je reviens pour revenir sur le choix du titre.
Ah oui.
Parce que là, on parlait de l'eau, et ce n'était pas forcément le propos du début. Et donc, du coup.
Oui, voilà, non, c'est très juste.
Lithium,
ouais. C'est très juste. En fait, au début, je crois, on voulait vraiment faire un film sur Mars et sur le lithium. Et ben, bizarrement, en fait, qui dit lithium, ou qui dit Mars d'ailleurs, dit eau, enfin, assez vite.
Et dit vie.
En fait, voilà. Et évidemment, sans eau, pas de vie. Donc, en fait, par exemple, les astrobiologistes, les biologistes tout court d'ailleurs, la première chose qu'ils cherchent, s'ils cherchent de la vie, c'est d'abord de l'eau. Enfin, c'est un des indices. Et donc, assez vite, pour trouver les traces, il fallait trouver de l'eau et trouver les traces d'eau dans un désert qui n'a pas d'eau. Et en fait, tout l'enjeu, tout le combat, par exemple, des indigènes là-bas, c'est bien autour de l'eau et de comment partager l'eau. Et puis, ça, c'est les petits miracles des recherches, notamment en cinéma, mais enfin pas que. Mais il s'avère que Follow the Water, c'est le nom du programme de la NASA sur Mars depuis les années 80, qui s'appelle Follow the Water. Et donc, parce que eux... Ça s'est fait en plusieurs étapes, les recherches martiennes et les découvertes. Mais au début, il s'agissait de trouver de l'eau. Maintenant, il s'agit de trouver de la vie. Mais donc, maintenant qu'on a prouvé les conditions d'habitabilité sur Mars, donc elles sont réunies. Martiennes. Oui.
Mais c'est important quand même de...
Ouais, bah alors c'est là où ils ne sont pas tous d'accord. Mais bon.
Et justement.
Mais disons, il y a eu les conditions d'habitabilité ont été réunies à un moment sur Mars.
C'est quoi les conditions d'habitabilité?
Elles les sont peut-être toujours, la question piège. C'est peut-être encore le cas. Et la vie donc, a pu exister et pourrait continuer d'exister pour le futur. Et donc, le programme de la NASA s'appelait Follow the Water, c'est-à-dire suivons l'eau pour trouver la vie, en réalité. Et il n'a pas été changé malgré les... Il est toujours en cours depuis les années 80. Donc voilà, le titre était suivre l'eau, chercher l'eau. Et ça permettait d'avoir un titre à la fois scientifique, disons, une référence scientifique, et à la fois quelque chose de très lié au combat indigène sur place, qui, vous l'aurez compris, nous tenait à cœur, puisqu'au fond, la véritable figure du film, c'est Karen Louza, qui est donc cette représentante et qui joue son propre rôle, et qui, elle, a un combat de l'eau et un pacte avec l'eau, comme elle en parle, très important. Donc, au fond, c'est plus un film sur autour de l'eau que autour du lithium. Mais ça, c'est venu...
Oui, mais c'est plein de... Enfin, on pourrait parler de... Aujourd'hui, on parle beaucoup d'entremêlés, mais enfin, toutes les questions s'entremêlent. Le lithium est un point de départ qui s'entremêle avec l'eau, mais avec la vie, en fait, c'est comme à concentrer, comme si Mars, ou la question de Mars, plutôt, était une cristallisation des préoccupations très actuelles et de nos enjeux aujourd'hui. Donc, tu parlais de boule de cristal, mais... Moi, j'aime bien cristalliser parce que ça cristallise toutes les questions qui s'hybrident et s'entremêlent. Et c'est vrai que ce n'est pas sur quelque chose. En définitive, c'est autour de cette question. Et du coup, on pourra toujours... C'est un peu multifacette dans ce projet-là. Donc, et c'est important que ça le soit parce que si on parle de multi-points de vue, oui, bien, par définition, il faut attraper toutes ces possibilités-là. Et c'est d'où la complexité, d'ailleurs, d'un art qui se veut... engagé de ce point de vue-là, parce qu'il y a justement, c'est pas une complexité, mais c'est comment on tourne autour de problématiques à la fois philosophiques et réelles, mais d'un point de vue artistique. Et donc, à un moment, faut le jouer aussi sur le mode artistique, quoi. Donc, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui, pour vous, n'est pas nouveau, puisque c'est typiquement à partir de cette, oserais-je dire, mayonnaise ou mode de liant et de croisement que vous opérez. Et donc, il n'y a pas un truc sur quelque chose et qui serait exportable immédiatement, par exemple, sur Arte. Et encore qu'Arte, ce n'est pas le canal le plus restrictif. Mais c'est encore une autre approche qu'un documentaire classique. On a tous compris, mais bon, faut-il se le redire? Et du coup, est-ce que ça répond à une question que vous posiez en termes de précision, ou est-ce que vous avez derrière une question?
J'avais bien compris le lien haut dans tout le film, mais plus le choix vraiment
du titre.
Ce titre, puisque le film a été présenté sur cette question de très en dessous, très en haut. Voilà, je me disais, bon, bah, pourquoi avoir choisi finalement l'eau ?
Oui, et pourquoi ce titre, en effet ? C'est vrai qu'il y a deux titres, finalement, qui vous rassemblent là. C'est Occupé Mars et Follow the Water, parce que Follow the Water, c'est un peu une première étape d'Occupé Mars, qui est un projet à plus long terme que vous voulez développer.
Et dans les deux cas, ce sont des... En fait, ce sont des titres existants. Alors, ça n'a jamais été un programme, mais Occupy Mars, on l'a emprunté, enfin, pas emprunté, on l'a volé à Elon Musk. Il a lui-même volé aux luttes comme Occupy Wall Street.
Bien sûr.
Donc, c'est comment, en fait, plutôt que de laisser le sens des mots être volé par d'autres ou se vider de leur...
C'est les re-revoler.
C'est les re-revoler. Et c'est, d'ailleurs, c'est un peu la logique que Pauline a travaillé au montage dans le film. Enfin, c'était à l'écriture, mais c'est, on prend une chose, on la retourne, on la re-retourne. Enfin, c'est un schéma, mais Follow the Water, c'est pareil. C'est-à-dire, on prend justement le nom du programme de la NASA, et pourtant, on est bien sur Terre, pas si loin d'ici, en quelque sorte, à enregistrer, Karen, puisqu'on en parlait, les voix de celles et ceux qui sont en train, finalement, de protéger le peu d'eau qui reste encore, en quelque sorte, alors même qu'on, pour des raisons tout à fait valables, on part très loin pour en chercher. Enfin, c'est cette tension qui était disponible déjà dans le titre, donc c'était aussi... vraiment une idée d'appropriation, mais non pas...
Oui, c'est s'approprier. Alors, c'est vrai qu'il y a l'idée aussi, très clairement, le projet Occupé Mars, c'est une façon de vous considérant quand même, pour le coup, sous une casquette plutôt artistique ou philo ou recherche, mais au sens, j'allais dire, des sciences humaines, peut-être, je ne sais pas, comme on pourrait parler d'anthropologie ou... En tous les cas, artiste et réalisateur, d'occuper Mars d'une autre façon, d'une façon plus artistique, tout simplement. On peut parler de ça comme ça, d'occuper ce projet. Parce que si on parle de découvrir la question de Mars, en fait, on est né avec. On a tous cet imaginaire martien de planète rouge.
Sauf que moi, en tout cas, quand j'étais petite, c'était des petits bonhommes verts sur une planète lointaine. Il y avait ça. Donc, Mars a toujours occupé beaucoup les êtres humains.
Sur Jules Verne, je ne sais pas, c'était quoi ? Il n'y avait pas Mars, non ?
Mars, non, Jules Verne.
Non, mais
c'est vrai que Mars, c'est une récurrence dans l'histoire des idées et dans l'histoire des imaginaires, bien sûr, qui est d'ailleurs souvent plutôt du côté du combat, en réalité. Et, on ne va peut-être pas rentrer dans les détails imaginaires martiens, mais en tout cas, nous, notre idée, c'était de dire, OK, en tout cas, moi, dans ma propre vie, l'imaginaire de Mars s'est transformé. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, je le vois différemment. Enfin, il ne s'agit évidemment pas de petits bonhommes verts. Et je trouve que, bon, après, bien sûr, quand on s'intéresse à un sujet, on a l'impression que tout est lié à ce sujet. Donc, ça, je me rends bien compte du défaut professionnel, entre guillemets, mais... Pour moi, la place qu'occupe Elon Musk dans cette vision de colonie martienne, enfin, moi, quand j'ai découvert ça il y a 2 ans, j'ai vraiment pensé que c'était une grande blague. Et en réalité, non, pas tant. Ce qui est quand même un petit peu vertigineux. Et donc, il y a des gens très sérieux qui travaillent à une vision très sérieuse, notamment en lien avec la science, puisqu'on ne peut pas se passer de la science, et que Elon Musk finance... je ne sais plus à combien de pourcents, mais en tout cas 40, toutes les activités de la NASA. Donc, c'est quand même pas rien, je veux dire, en représentation où est le pouvoir économique, etc. Et en plus, sur Mars, on cherche évidemment des ressources et du lithium en priorité. Le fait que tout d'un coup, cette planète devient aussi un enjeu économique, aussi quelque chose, là où moi, j'y avais mis plutôt des petits bonhommes verts. Il y a quelque chose...
Alors, il s'est passé quand même beaucoup de choses entre-temps. C'est-à-dire, il y a eu le renoncement de la NASA provisoire de l'investissement. Parce que là, si on parle de la conquête spatiale, voilà, on peut ouvrir le sujet. Moi, je n'en suis pas du tout la plus grande des spécialistes. Moi, s'en faut. Et Musk a pris une place, hein, c'est très clair, sur les voyages spatiaux. Donc, je veux dire qu'avant même... Si l'histoire de Mars était là, c'était les voyages spatiaux, c'était une conquête spatiale de toute façon, mais qui tout d'un coup s'individualisait, enfin se privatisait. Mm-hmm. C'était quand même la nouveauté, et c'est les 10 dernières années, en gros, moi, ça m'est arrivé, enfin, c'est arrivé dans des échanges avec certains, dire oh, ah, c'est formidable, dire oui et non, enfin, de quel type de voyage spatial on parle? C'est un voyage de milliardaire, est-ce qu'on parle de conquête, est-ce qu'on parle de... Voilà, et à titre personnel, j'ai été plutôt en réserve parce que... Alors, ça peut paraître bêtement éthique, mais en disant la question de Mars, oui, mais... Donc, toujours cette notion de découverte est toujours passionnante en soi et fait la force de notre humanité qui tend toujours à vouloir faire un pas supplémentaire de l'accroissement de ses connaissances et savoirs. Oui, mais pourquoi? Alors, pourquoi, justement, à un moment donné, parler d'un ailleurs de quel ailleurs on parle alors qu'on sait qu'on est tous rassemblés autour d'une Terre qui... dont on a même un président qui avait dit qu'il n'y aurait pas de planète B. Donc, je veux dire, on est là sur des grandes discussions. Et on a en France la chance, d'ailleurs, pour le coup, c'est autant le dire, d'un socio-anthropologue qui s'appelle Bruno Latour, qui a une notoriété mondiale aujourd'hui, mais qui est tout simplement à Paris et rencontrable, et avec qui vous avez d'ailleurs travaillé dans le passé, dans le cadre de SPIP. Moi, j'y arrive jamais. SPIP, oui, sur SPIP. Redites ce que c'est. Oui, SPIP, c'est...
C'est une formation qu'a montée donc Bruno Latour, l'anthropologue dont tu parles, avec une volonté expérimentale dans l'idée de rassembler différentes pratiques et savoir-faire, dans le lien entre l'art et la politique.
Voilà.
Et on s'est rencontrés, on a eu la chance d'y participer, donc de le fréquenter une année, et on s'est rencontrés dans ce cadre-là.
C'est pas un hasard total, d'ailleurs, de travailler ensemble sur ces... Parce que vous êtes à cette lisière à la fois de la manière dont quelqu'un comme Latour a voulu rendre transversales toutes ces possibilités de savoir et de compétences, mais notamment sur le fait, on va dire, politique et artistique, plus que scientifique stricto sensu. Aujourd'hui, un projet tel que vous l'émanez, il est dans cette lisière-là aussi, avec cette dimension scientifique de facto, j'allais dire, parce que dès qu'on parle d'espace, si on devait résumer, je ne veux pas restreindre, mais je veux dire que ça fait sens par rapport à votre propre parcours initial, dans tous les cas. Et donc, pour revenir au mot Latour, Bruno Latour en question, qui nous dit... Vous savez qu'il y a des accents de presque de désespoir chez Bruno Latour quand vous l'écoutez le matin sur France Inter. Il suffit de lire où atterrir. Enfin, je pense qu'on n'est pas toujours dans une gaieté absolue dans ces moments-là, et qui nous dit, en gros, il y a une zone critique aujourd'hui qui nous concerne si on veut travailler, considérer Gaïa, la Terre, pour ce qu'elle est, notre habitat. Pour aller très vite, doit-on la quitter ou au contraire veiller à pouvoir la non seulement la soigner, mais lui donner un possible futur. Et du coup, c'est vraiment, et désolé hein, pour le côté très, très rapide de la pensée que j'évoque, mais pour aller vite. Et donc, donc c'est ici, en effet. Et donc, aller vers cet ailleurs, est-ce que c'est compatible dans cette relation à prendre soin à cette terre qui est devenue notre habitat, dont on savait que c'était notre habitat, mais à quel point il faut qu'on puisse s'en occuper pour lui éviter d'être détruite? Et puis, est-ce que le fait d'aller ailleurs que sur cette terre, cette Gaïa, nous permet de poursuivre finalement cette approche de préservation qu'il nous propose, de préservation de notre terre Gaïa. Voilà, c'était un peu ma question détournée.
Ouais, je pense que c'est notre question, et C'est justement étonnant et à la fois évident que pour l'aborder, on est allé le plus proche de la Terre, quoi, dans la Terre, sur la Terre. Enfin, c'est un désert, c'est que de la Terre, en quelque sorte.
C'est un sol.
C'est un sol.
Un terrain.
On voit le sol. Parce que là, on est sur des sols, mais on n'est pas vraiment en contact avec le sol, même si on repose bien dessus. Mais le désert d'Atacama, c'est que du sol. Vous respirez beaucoup de poussière, il est très chaud, vous êtes avec le sol tout le temps, quoi. Et je pense que c'est pas toujours pensé dans le processus d'élaboration, c'est pas toujours conscientisé. Mais à la question que dire de Mars, comment penser Mars, eh bien en fait on y répond là aussi en retournant. C'est plutôt que dit Mars ou ce qu'on projette, ce que nous projetons sur Mars de notre condition terrestre aujourd'hui, c'est-à-dire de notre mode de vie. Et de toutes les questions là auxquelles on fait face. Tout à l'heure, vous parliez de découverte. Moi, je souhaitais juste m'arrêter sur ce terme aussi parce que ça me permettait de rebondir sur un enjeu dont on n'est pas des spécialistes, mais tout est là, tout est lié. Donc, tous les sujets sont dans l'Atacama et dans le film Follow the Water, en tout cas beaucoup. Et il y a évidemment la question coloniale, en fait, la question de la domination. Donc Karen témoigne discrètement, mais... donc tout ce qu'elle dit est tenté par cette question. On parlait de la légende tout à l'heure quand Pauline racontait le film. Et en fait, prendre le temps d'être sur le sol du désert de l'Atacama, c'est aussi tout simplement se demander mais qu'est-ce qui ne s'est pas déjà joué. Et donc d'aller en courant sur Mars, on parle parfois de
fuite, coloniser Mars, parce qu'on peut reprendre le terme pied à pied.
Bien sûr. Ouais. Qu'est-ce qui ne s'est pas déjà joué ici, que nous n'avons même pas résolu en quelque sorte, puisque l'histoire coloniale telle qu'elle, là aussi je vais très vite, mais dans un terrain comme celui de l'Atacama, elle a évidemment participé à la brisure, à la cassure. Karen parle des éléments, Pauline en parlait tout à l'heure en racontant le film. L'eau et la terre sont comme le cœur et... La terre et l'eau, pardon, sont comme le corps humain, donc comme le cœur et les veines qui vivent ensemble. Évidemment, c'est la violence coloniale, elle casse ça, elle brise ça, elle brise, et puis ça perdure, ça se perdure encore, et ça se perdure jusqu'à Mars. Donc, on est ramené aussi, puisqu'on pourrait croire que Mars nous libère aussi de ces sujets, absolument pas. On y est ramené et il faut absolument y faire face.
Donc ça veut dire que prendre soin, je ne sais même pas comment dire un atour, mais enfin s'occuper de cette zone critique et de notre contexte d'habitat aujourd'hui, enfin comment on pourrait n'est pas incompatible avec le fait de se projeter, de projeter un imaginaire dans un ailleurs qui peut nous aider justement à y contribuer davantage. Potentiellement ou pas, je sais pas.
Oui, je pense qu'après, sans doute pour Bruno Latour, la question, parce que la zone critique, c'est controversé, c'est controversable, mais alors ça rejoint votre question, puisque lui aussi, zone critique, il l'emprunte à la science, hein, et donc la zone critique, parce que tout le monde n'est pas forcément là, c'est quand même la fine couche. Je ne sais plus à combien de mètres, mais disons, entre l'air et sous terre qui nous permet de vivre. Donc, son idée, c'est étudions ça, et c'est ça qui a investigué, qui a à prendre en compte, qui a analysé, etc. Donc, cette histoire de zone critique, ce n'est pas critique dans le sens, ça n'est pas que ça. Et donc, il l'emprunte à la science pour l'amener dans l'art, mais aussi dans la pensée, à d'autres endroits de sciences humaines. Et nous, sans doute qu'on est héritier de ça aussi, dans le sens où, quelque part, considérer que le désert d'Atacama est aussi le sous-sol et aussi la projection. Mais j'imagine, mais il faudrait qu'on pose la question, mais que pour lui, déjà, on est trop loin. Parce que c'est bien au-delà de la zone critique. Mars, c'est très, très loin.
C'était donc ma première question.
Donc, effectivement, je pense qu'après, là où on est héritier, sans doute, et on s'en détache à d'autres endroits, mais on est héritier, c'est sur cette histoire de perspective. C'est-à-dire que nous, notre travail, il est souvent lié à mettre ensemble, à croiser des perspectives. Donc, ce n'est pas tellement art et science, tout ça, c'est-à-dire, et si on prend plusieurs... plutôt que point de vue, plusieurs perspectives sur un même endroit, et qu'on regarde qu'est-ce qu'on apprend et comment on peut se préoccuper, enfin, comment on peut avoir aussi, ça c'est toi qui redis ça souvent, mais le souci de comment on restitue ses connaissances ou comment on restitue ses perspectives. Et par rapport à l'Atacama, c'était ça aussi, comment on redonne à voir ou à entendre ce que nous, on a découvert, ce que nous, on a découvert sur place. Et puis, par rapport aux vols spatiaux, ou en tout cas à la question de la recherche, moi, je crois qu'il faut distinguer, mais bon, après, c'est des histoires individuelles, mais j'ai l'impression qu'il faut distinguer qu'est-ce qui est de l'ordre de la science, donc effectivement, peut-être aussi de la recherche fondamentale qui, pour moi, n'est jamais questionnable, enfin, qui est nécessaire et point. Et au fond, tout justifie pour moi qu'on aille jusqu'à Mars si on a besoin de chercher des choses, scientifiquement parlant. Et puis après, il y a l'autre distinguo qui serait le vol spatial touriste, qui est pour que 3 personnes aillent faire, parce qu'en plus c'est 20 minutes, hein, donc ils montent, ils font 20 minutes, ils font comme ça, puis ils redescendent. Et là c'est discutable, enfin, brûler 12 planètes pour monter dans une fusée, voilà, ça, enfin, c'est plus que discutable, c'est complètement insensé. Enfin, voilà, mais c'est quand même deux choses différentes. Alors, bien sûr, se lie, mais effectivement. Mais
tourisme-là pour permettre de continuer.
Bien sûr.
À prendre... enfin,
non, c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que bien. Mais c'est là où moi j'aurais tendance à me méfier de la rhétorique, c'est-à-dire c'est beaucoup ça qu'on nous sert, c'est-à-dire on nous dit oui, mais ça permet de gagner, de faire des équipements moins chers en termes de fusées qui nous permettront d'aller sur Mars, etc. Mais c'est pour moi c'est énorme pente glissante, c'est-à-dire que.
Qui justifie aussi que. On aille prendre tous lithium pour nos portables, justement pour échanger, pour avoir des followers.
Un follow, oui, très juste. Tiens,
un jour, on s'est allé sur Mars, oh, c'est pas bien. Ben, voilà. Ou encore des choses moins importantes.
Tout à fait. Non, mais c'est juste. Mais alors, c'est justement là où, et ça, c'est quelque chose auquel votre intervention me fait penser, qui est, nous, à aucun moment, mais c'est aussi peut-être. Étonnant, ou j'en sais, mais à aucun moment, nous, il s'agit de dire qu'on a une solution ou qu'on justement se partage des perspectives, c'est aussi dire, et je crois que le film, ça c'est un aspect desquels je suis très, très, très fier et content d'avoir réussi à dire, nous, on en fait partie de ce problème. Enfin, c'est-à-dire, nous, on vient dans le désert d'Atacama, on a des grosses lumières qui fonctionnent au lithium, enfin, il n'y a pas de moment où on dit le grand méchant capitalisme a fait ça, ou les vols spatiaux seraient responsables. Donc c'est toujours évidemment plus complexe qu'il n'y paraît. Et dans Follow the Water, nous sommes partie prenante de ce film. Enfin, on fait partie des gens qui étudient quelque chose dans ce désert, et même un petit peu. Enfin, je veux dire, c'est volontaire que c'est montré, nous, les équipements, etc. Et les batteries au lithium nous servent à nous, comme là, on a beaucoup de lithium dans la salle actuellement, donc c'est pas à se mettre en position de surplomb ou quoi que ce soit, c'est vraiment, on fait partie du problème, je ne sais pas, mais de la controverse, et on fait partie de ce qu'il y a à questionner.
Je pense que, alors, avant de partir en tournage, là, en décembre dernier, on était en train d'écrire un film, et on se demandait toujours, ou quand on parle du projet, c'est qui ce « on » alors, on est dans la fabrique du « nous », pour nous, on est au cœur du sujet, c'est-à-dire on fait partie du problème. Alors, qui est ce on ? Est-ce que c'est l'empathie que nous avons, Pauline et moi, pour Karen Louza, la militante ? Ou est-ce que c'est. Moi, j'ai de l'empathie aussi, je crois, bizarrement, c'est choquant, mais je vais le dire, pour le directeur financier de la mine, puisqu'en réalité, il répond à mes besoins, enfin, ou en tout cas ceux que je consomme aujourd'hui et avec vous en ce moment. Donc, alors évidemment, on n'a pas la même. Nous n'avons pas développé la même relation. Mais voilà, le nous, où est-ce qu'on est nous dans le désert d'Atacama? Parce qu'en fait, on y est, quoi. C'est-à-dire, on est justement autant dans la mine de lithium, sinon plus en réalité qu'avec Karen, que nous passons très brièvement voir. Que nous soutenons parce que nous l'écoutons, mais c'est tout. Alors c'est déjà ça, évidemment, parce que c'est observé, mais c'est le problème dont parle Pauline, il est fondamental, je pense, pour nous tous. C'est pas qu'une question de cinéma, c'est une question commune, je pense, c'est une question partagée. C'est à partir du moment où on observe ou à partir du moment où nous sommes informés de quelque chose, bah, où est-ce qu'on va se situer. Voilà, on revient à la tour, mais voilà, qui sont fondamentales au cœur du travail, qui nous a mené, j'y reviendrai tout simplement, eh bien, à s'arrêter à ces personnages, quoi. Ces 4, si on regarde schématiquement, bah, il y a la science, il y a la technologie, il y a l'économie, enfin, la production et le militantisme ou quelque chose, comment tu dis, l'activisme, ouais, quelque chose qui échappe en tout cas. C'est vrai que là, le point de fuite, il est avec Karen parce que c'est finalement la peut-être la seule qui relie les temps alors que les autres découpent énormément, sont détachés les uns des autres. Et voilà, un des projets du film que vous avez pu voir, c'est pour Pauline et moi, c'est comment on peut les rassembler. Alors c'est très artificiel, artificiel au sens de la mise en scène, mais c'est comment on peut les faire se parler. Art, ouais. c'est la recherche en art. On se demandait tout à l'heure, c'est peut-être là qu'on cherche. On, avec les moyens du film, d'autres existent évidemment, c'est pas exclusif, mais nous pouvons tenter de les faire se parler, je sais pas, mais en tout cas de les voir parler l'un à côté de l'autre et donc de rapprocher ce que sans cesse. Ce qui sans cesse est éloigné, divisé, ou ce que nous-mêmes, pour nous en sortir avec notre propre conscience morale, nous éloignons ou nous séparons, quoi.
À propos des aspects séparés, voire binaires, mm-hmm. Là, on a parlé, on est au-delà des oppositions binaires et dualistes, mais j'avais envie de, désolée, je n'ai pas prévu de revenir sur, là, je ne l'ai pas là, au moment où, sur Edgar Morin qui dans un tout petit dernier ouvrage reparle de l'acceptation non seulement de la complexité des mondes mais des dimensions contradictoires apparentes, c'est-à-dire qu'au-delà des dualismes dont on comprend bien que ces oppositions sont vaines, s'apprêter à affronter les contradictions qui sont les nôtres propres d'ailleurs, à commencer par nous-mêmes, compliqué quoi, mais c'est ça un peu la proposition, c'est que là on... C'est imbriqué, c'est complexe, et ça dit énormément, mais justement, ça ne se dit pas en deux secondes, et ça dit toute cette complexité, voire ces contradictions potentielles. On ne pourra pas assumer, enfin, s'il n'y a pas de manière d'assumer ces contradictions, c'est impossible. C'est ce qui fait que c'est trop compliqué, voire... infaisable, si on vous dit voilà, cette planète va, enfin cette planète, c'est-à-dire c'est même plus cette planète, c'est une sixième extinction majeure d'espèces potentielles, donc qui est l'humanité. Donc là, c'est un petit peu plus clair que la simple planète. Bah, au fond, c'est ce qui nous dit aussi ce monsieur Morin du haut de ses 101 ans, c'est que si on se transforme pas en tant qu'humain et on va pas y arriver. Donc, dans cette transformation, au-delà de la prise de conscience dont on est tous convaincus, au-delà de la multiplicité des points de vue et finalement de l'empathie, voire de la compassion, enfin de la capacité à intégrer les autres et les autres points de vue, c'est comment accepter le champ des contradictions potentielles, parce qu'on est en aucun cas, même quand on le met en œuvre, du bon point de vue. Ça c'est terrible parce qu'il y a un moment, il n'y a jamais une situation plus à l'aise qu'une autre, mais bon, je parle pour aussi ceux qui se lèvent le matin et qui commencent à faire des gestes, des éco-gestes, puis qui dans la seconde se contredisent. Je vous en prie.
Moi j'aimerais que vous nous en disiez un peu plus sur votre choix de travailler sur trois écrans.
Je peux le dire pour toi. Oui. Je crois que c'est une idée de Pauline suite à l'invitation de Nathalie Arginot ici à l'IAC, entre autres, en tout cas. Mm-hmm. C'est-à-dire que nous travaillions sur un projet de film. Nous pensions plutôt un écran. Mais lorsque Pauline a été invitée pour exposer quelque chose du travail ici, je crois que... Enfin non, je me souviens, elle a eu envie de trois écrans. Et après, ça se construit, c'est-à-dire c'est une idée formelle, pourquoi trois ? Mais on le découvre en le réalisant et on le découvre en le voyant, on le comprend mieux.
Par rapport à la question des contradictions, des complémentarités, oui, des antagonismes,
tout à fait.
Je trouve très intéressant que ce support-là soit choisi.
Il n'est pas binaire, il est triple et donc il crée le... Voilà.
Il y a ce tiers, enfin...
Mmh. Je pense qu'il y avait un... Une idée de pouvoir, parce que c'est juste ce que tu dis, on avait le fantasme un peu de dire, ah ben on va réunir cette parole. L'idée c'était au début, le pitch du film, c'était c'est la nuit, des protagonistes dans le désert se rencontrent. Mais alors évidemment, ils ne se rencontrent pas bonjour, mais ils se rencontrent dans l'espace du film. Et donc c'était ça la volonté initiale. Et bon, il y a une volonté, enfin une idée formelle, disons, comment on dit, une intuition. Mm-hmm. Parce que le film que j'ai fait juste avant, il y avait deux écrans. Je trouvais ça un peu, voilà, après, j'ai envie d'en avoir un troisième. C'est aussi bête que ça, mais aussi de se dire, tiens, le désert, comment... Ça, c'est toi qui racontes ça l'autre jour. Comment, tout d'un coup, on pourrait avoir une perspective non humaine? Parce que c'est bizarre quand ça devient trois écrans. Là, quand ça, on a, enfin, on...
Le panoramique, tout
ouais.
simplement.
Oui, ouais, mais alors là, c'est presque... C'est encore plus large qu'un format panoramique cinéma, disons.
Oui.
Mais, et donc, voilà, on avait envie de quelque chose d'un peu monumental.
Non, mais c'est, ouais. pour moi, c'est fou.
Mais le chiffre 3 est quand même super.
Le chiffre 3, c'est la dialectique. Mais c'est ça qui est... Oui, je crois que c'est ça qui est excitant dans la création, malgré tout. C'est qu'à partir de l'intuition de Pauline, on la réalise et nous la comprenons petit à petit. Mais 3, oui, c'est la coexistence, c'est la cohabitation. C'est 2 serait dual et peut-être inefficace, inopérant dans ce qu'on a souhaité rendre compte. Et 3, je crois qu'on est arrivé en tout cas à exprimer quelque chose dont on avait envie de rendre.
Parce qu'il y a quand même tout ce jeu aussi au-delà des 3 écrans sur des moments d'alignement, on va dire, pour aller vite, et des moments de décalage, de réunion.
Parce que... quand je vous entends, Nathalie aussi, quand je vous entends, je suis surpris parce qu'en fait, on parle comme on parlerait en sciences humaines. On est presque dans les... Moi, j'ai l'impression souvent, quand je vous entends, d'être en face d'anthropologue, de sociologue, de philosophe. Enfin, plus côté anthropologie et plus côté sociologie. Et je pense je trouve qu'il y a une certaine utopie à vouloir embraser autant de sujets différents et autant de complexité pour vos sujets. Et je me dis, quelle est la même... Après, je pars du côté artistique, que je retrouve pas dans l'énumération de tous ces sujets d'anthropologie ou de sociologie. Je retrouve pas quelque chose que je trouve primordial, c'est la manière la plus intime, artistiquement parlant, de parler d'un sujet. Et je trouve que vous parlez de tellement de sujets qui sont commentés par Madame Virginaud, d'un point de vue philosophique, qu'on abandonne la démarche artistique et que je me demande si le sujet à ce moment-là n'est pas trop vaste et s'il n'y a pas nécessité de pointer un seul sujet et de pouvoir l'aborder d'un côté scientifique, d'aborder artistique qui me paraît primordial comme démarche.
Alors justement, vous touchez là exactement l'enjeu de alors plus que de cette pièce, alors là moi je dirais non-travail en général, c'est... On parlait d'Edgar Morin tout à l'heure, c'est la pensée complexe, c'est-à-dire quelque chose où ça n'existe pas un seul sujet, pour moi. Et en réalité, le moment artistique, on doit dire ça comme ça, où la recherche artistique est là dans ces salles. Donc nous, effectivement, ce qu'on fait là, c'est plutôt venir expliquer le autour. Et en fait, pour vous dire, il y a aussi une inclinaison à certains moments de parler de certaines choses. Par exemple, si quelqu'un pose une question pratique ou artistique, etc., on peut y répondre. Mais c'est aussi des questions de goût et d'enjeu. C'est-à-dire, au fond, moi, l'art pour l'art ou l'art formel, à un moment, personnellement, ça m'intéresse assez peu dans une discussion. Mais ça, c'est des choses où je ne suis peut-être pas à cet endroit-là, moi, exactement. Et donc, j'ai l'impression que le moment de artistique se passe dans le film. Enfin, le film fait quand même 50 minutes, donc il y a déjà beaucoup de choses qui se sont dites. Et donc, évidemment, venir parler après, c'est raconter un peu autour. Et moi, j'aurais tendance, mais c'est peut-être mon esprit de contradiction, mais en vous écoutant, de me dire, ah ben alors, c'est qu'il n'y en a pas encore assez, peut-être, de sujet. Peut-être qu'il faut qu'on en rajoute encore. Et c'est sans doute un fantasme, hein, de notre part, de dire, mais en fait, le monde, en tout cas tel que moi je le vis, est lié à plein d'endroits, il y a une complexité générale. Alors le risque peut-être de passer à côté ou de survoler, mais ça, c'est l'œuvre elle-même qui le dément ou qui le confirme, c'est-à-dire entre le survol, enfin la superficie ou la profondeur d'un sujet. Et alors, en même temps, vous nous permettez de rebondir sur la suite, puisque ce projet est un projet au long cours, donc il s'agit de dérouler ça pendant les 2, 3, 4, 5 prochaines années. Donc il y aura d'autres moments pour préciser ensemble et pour reprendre le fil de Follow de Water et de Occupy Mars. Et en réalité, bien sûr, ce moment de discussion, c'est comme un peu un commentaire sur sur la chose.
Oui, mais pas que, pardon, parce que bah, je la trouve très intéressante, votre question. Mais pour moi, sans rhétorique, pardon, notre réponse est dans votre question, puisque je crois que notre intimité est dans cette vastitude. C'est-à-dire, enfin, on s'est rencontrés comme ça avec Pauline, et il y avait même le désir d'un film sur quelque chose qu'on pourrait dire océanique, c'est-à-dire comment on parle de tout ça là qui nous anime. Parce qu'un film, bon, bah, il y a mille manières de commencer. Il y a un sujet qui s'impose ou que vous rencontrez. Et nous, je crois que dans cette intimité-là, il y a, enfin, notre intimité, c'est
subjectivité, peut-être.
Subjectivité.
Interpersonnelle, non, je sais pas comment.
Ben, l'intimité, c'est comment, je crois, dans votre question, si je comprends bien, c'est qu'est-ce que nous on met en jeu dans, qu'est-ce que mettons nous-mêmes en jeu dans tous ces sujets, ou avec tous ces sujets, ou avec lequel, quoi, et ou lequel de ces sujets. Et je crois que oui, subjectivité, bien sûr. Mais notre subjectivité, c'est tenter de redistribuer. Et alors, forcément, bah, il n'existe qu'un follow the water, c'est-à-dire que la pièce reste, enfin l'installation la filmique reste totalement unique de par son mode d'écriture, son mode de fabrication et comment elle se montre. Donc, et je trouve encore une fois votre question très juste, puisque c'est vrai, c'est le cas, et je pense que c'est une matière que nous travaillons, quoi, avec laquelle on se confronte, quoi.
Je ne sais pas si c'est une manière de répondre, mais il y a aussi quand même une thématique commune, c'est aussi l'origine, enfin, le questionnement sur l'origine du monde, en fait, mm. hein, qui renvoie à d'autres travaux aussi antérieurs et probablement les suites, mais enfin, il y a quelques pièces là qui sont montrées, c'est enfin, les premières images du monde, les premières représentations du monde, tu as tenté de représenter à nouveau l'origine du monde. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est ça, c'est ma réponse, hein, c'est pas la vôtre, mais. Enfin, qu'il y a en tout cas quelque chose, en tout cas un fil conducteur, peut-être pas une thématique, mais un fil conducteur.
Oui, la forme artistique, en tous les cas, le fait artistique peut traverser des grands sujets. Je veux dire, il n'y a pas d'antinomie. Et c'est une forme de subjectivité en acte, en tous les cas, parce que sans faire du relativisme, même sur les sciences, la dimension scientifique, je veux dire, pourquoi tel chercheur cherche telle chose, alors. C'est une dimension subjective. Enfin, on peut en parler, mais sans ouvrir la boîte de Pandore.
À la limite, moi, je pourrais retourner la question rentrer encore à Pauline. C'est une question que je poserais bien, d'ailleurs. Hein? C'est justement pourquoi tu ne t'es pas engagé dans l'anthropologie ou la sociologie. Enfin, on parle beaucoup des sciences humaines. Je pense qu'effectivement, nous, on pioche, on picore, mais j'ai absolument pas le savoir-faire ni le savoir d'un anthropologue ni d'un sociologue. Mais ça m'intéresserait de savoir pourquoi Pauline justement choisit le cinéma, puisque c'est là l'enjeu intime. Il est là, je pense. Mais c'est aussi mystérieux qu'une boule de cristal, peut-être, ou tout simple et limpide, je sais pas.
Non, mais en même temps, c'est un beau compliment, parce que moi, je pense que.
Est-ce qu'à un moment donné, on peut considérer que vous faites du reportage sociologique?
Alors, oui, on peut voir. Après, les termes en cinéma, tout ça, c'est compliqué, parce que reportage.
Un peu comme Jean
Rouge. Non, mais voilà, vous me flattez. Mais
c'est presque une forme artistique, Jean Rouge. Hein, d'ailleurs, je serais flattée.
Non, Jean Rouge, c'est aussi très différent, parce que alors, Jean Rouge, alors, pour le coup, c'est aussi une volonté. Mais ça, c'est une bonne question, mais c'est difficile. Une volonté informative. Enfin, une volonté, c'est aussi un autre temps de l'image, hein, quand on pensait que l'image pouvait capturer un moment de réalité et être un objet d'étude aussi. Enfin, et alors, nous, on est quand même beaucoup dans la mise en scène, parce que ça n'a pas l'air, mais c'est très travaillé. Enfin, si ça a l'air, bon, je ne sais pas, mais c'est très travaillé.
On a vu un documentaire, quand même.
Oui. Pardon, je ne vous ai pas bien entendu.
Je dis, on n'a pas l'impression d'avoir vu un documentaire.
Non.
Est-ce qu'on a vous avez quelle impression,
appris,
pardon
du coup, quelle
Vous avez quelle impression
ben, d'avoir vu une œuvre artistique, justement, et pas un documentaire.
Voilà. Une sensibilité vivante, je trouve. Ces images, c'est comme un peu organique, notre à force de tout ce minéral qui est là tout le temps. Même cette machine avec ses roues à première roue, on peut dire, qui avance et qui prend une dimension. On se surprend à avoir de l'empathie pour. Ouais. On voit ces hommes qui la voilà, et on voit cette machine soupçonne une intelligence, enfin on est prête en tout cas. Moi je trouve très très sensible ce film. Très...
Mm-hmm.
Oui, que cette dimension organique et finalement n'est pas en, parce que là, si on parle même forme, sensibilité, avec cette dimension minérale, sans pousser le bouchon, mais il y a une dimension presque vivante de cette minéralité qu'on ressent beaucoup sous les formes artistiques aujourd'hui. Hein. Ouais. C'est ça. Je signale, enfin bon, que dans quel territoire, sans vouloir t'embêter, hein, mais bon, vous avez un talus de la Rade Marseillaise, c'est tout petit, mais on sort, voilà, on rentre dans des paysages, dans une minéralité qui est folle et qu'on avait déjà d'ailleurs à l'IAC abordé en 2015 sous d'autres formes, sur les formes de l'énergie, voilà, bref, je ne vais pas évoquer ce passé. Mais et cette pièce, si tu permets, d'Irénée Koppelmann, quand on sort, qui est dans la salle 1 et qui renvoie à un terrain analogue aussi, qui est celui de l'Utah, où elle est allée, elle, chercher, faire des relevés topographiques et géologiques de cette zone, qui est en fait de cette constellation de concrétions qui sont reproduites en céramique, mais qui correspond à une constellation identique possiblement sur Mars. Voilà, donc c'est. Et pourquoi on a besoin de repasser par les terrains, les sols, les éléments de terre, bon, c'est tout sauf neutre, quoi. Pourquoi ça nous rassemble sensiblement aussi,
hein? Moi, je voudrais juste. Alors, je n'ai pas du tout la pensée bien structurée, là, donc je ne sais pas ce que va donner l'intervention, mais en vous écoutant, en ayant vu le film et en écoutant monsieur, moi, il y a vraiment l'idée d'extraction qui me percute, parce que y a cette idée d'extraction du lithium du fond de la terre. Comme si on recherchait cette boule de cristal aussi, il y a s'extraire de la terre. À la fois pour aller sur Mars, mais aussi s'extraire d'un point de vue très moderne. On est humain, on s'extrait d'un élément. Voilà. Et je pense que la forme artistique qui est proposée, pour le coup, elle évite aussi qu'on extrait les sujets les uns des autres. Enfin, voilà, c'est cette idée d'extraction, moi, qui me parle un peu là, dans l'échange. Et je trouve que la force de votre proposition, c'est justement que ne pourrait peut-être pas faire l'anthropologie, enfin un film anthropologique de la même manière, c'est de relier.
Oui, relier. Mais alors, c'est très juste l'extraction, parce que j'avais envie d'ajouter l'extraction du réel, parce que,
en fait,
parce que tout est très mis en scène, hein, quand même. Donc,
mais pour faire réel,
d'ailleurs, oui, oui, bien sûr, mais je veux dire, Jean Rouge, c'était autre chose dans la captation du réel.
Certes.
Et par exemple, le fait que le directeur financier commence quand même un peu à délirer à un certain moment, c'est-à-dire qu'il a un discours rodé, mais il décroche.
Le directeur financier, c'est celui qui est devant le camion.
Voilà, qui est devant sa voiture là, et qui raconte. Donc lui, il est le directeur financier de la compagnie et qui finit par perdre un peu lui-même le fil de ce qu'il est en train de dire, tellement tellement au fond c'est rodé, mais aussi tellement c'est aberrant ce qu'il est en train de raconter. Enfin, donc il y a aussi lui-même se rendant compte de sa fin. Et ça, c'est aussi une extraction du réel. Et je pense que moi, mon travail, et toi aussi, il y a quelque chose de. En fait, le moment dans lequel on est vis-à-vis de l'image et de l'image qui continue, qui nous arrive tout le temps de manière permanente, peut-être que tout le monde puisse filmer, il y a aussi cette volonté de se dire comment nous, qui travaillons l'image, comment on. On rend un peu étrange le réel, presque. Donc, c'est presque un effet différent de ce qu'on pouvait chercher il y a 20-30 ans. Et là, dans le désert d'Atacama, il y avait ça. Alors, à la fois documentaire, c'est-à-dire peut-être donner des informations, rendre compte, faire un reportage, au fond, pourquoi pas. Et puis, à la fois, avoir le prisme de notre regard à nous au travers de choses comme ça qui sont rajoutées, qui sont aussi nos fantasmes, puisque... toute l'histoire avec les chevaux, tout ça c'est de la fiction, en fait. Enfin, le film est une grande fiction en réalité, donc les terminologies de toute façon sur les films, c'est toujours un peu compliqué, parce qu'au fond je ne sais pas si c'est une fiction, un documentaire ou un reportage ou autre chose, mais en tout cas c'est un film, il est sur trois écrans.
Alors tiers cinéma, on a invité les amis de l'IAC Lors de l'exposition de la Pichapon de Virasatekul, on a invité un conférencier qui a traité la question d'art et cinéma et finissant sur la question de tiers cinéma pour dire justement qu'on ne pouvait pas le définir. Mmh. Voilà, bon, typiquement.
Parce qu'il échappe, il refuse. Oui, oui.
Oui, voilà.
Artistiquement et politiquement, c'est la volonté d'échapper aux catégories, c'est-à-dire la science. Vous dites, c'est très, vraiment très pertinent que justement un anthropologue pourrait pas relier tout ça. Mais je crois parce que sa méthodologie lui impose d'aller le plus précisément possible dans une direction.
Donc, ultra scientifique.
Il peut pas prendre toutes les directions en même temps.
Ouais.
Et c'est le luxe en quelque sorte du cinéma, c'est de pouvoir tout aborder ou en tout cas aborder plusieurs directions.
Et le luxe de l'art dans le cinéma, c'est d'être encore plus libre parce qu'on n'est pas là face à des producteurs de rentabilité. Donc c'est là qu'on est dans l'expériment. Non, mais
la le même... refus des catégories, et... ces mêmes catégories.
C'est là qu'il y a cette immense liberté que je dirais seul le fait artistique dans son économie et son fonctionnement peut permettre au-delà du cinéma. Moi, les amis qui sont dans le cinéma et qui vont se recharger dans l'art, il n'y a pas qu'à Pichapong. Hein. Je veux dire, c'est une nécessité là aujourd'hui. Sinon, ils n'existeraient pas tant que ça. Quoi. Enfin, donc, c'est.
Voilà. Oui, le cinéma à cet endroit-là.
Donc, tout hybridé, enfin, plus qu'hybridé, c'est un mode de survie aussi hein, aujourd'hui. C'est un mode de travail, c'est un mode de pensée, c'est une façon probablement de survivre. C'est tout sauf de la com, dans le sens de son efficacité.
Mais non, il n'y a pas de com.
Voilà. Ça ne marche pas, quoi. Ça ne se communique pas.
Est-ce qu'au fur et à mesure que vous travaillez, est-ce que vous avez l'impression que. Vous faites des progrès en termes de technique cinématographique et que vous arrivez à exprimer ce que vous voulez dire de façon beaucoup plus pertinente parce que votre expérience et votre maîtrise de l'outil vous le permet.
Ah, une perfectibilité à l'horizon.
Quand vous parlez d'outils, oui, alors après, oui, oui.
Comme un sculpteur, peut-être.
Oui, oui.
Un sculpteur d'image.
Ah, oui, oui. Oui, alors après, disons que comme le cinéma ou l'image mouvement, disons, fait appel à des équipes, on va dire que oui, on s'améliore.
Oui, oui,
c'est un gros travail. Tout seul, je fais de toute façon pas grand-chose. Donc, c'est aussi une équipe qui grandit, qui grossit et qui se précise, oui. Après, qu'est-ce que c'est progresser? C'est toujours un peu compliqué de savoir. Est-ce que, mais oui, on fait mieux, comme de toute façon, on est. Oui, comme la pensée.
On affine,
on précise.
On peut sculpter.
Après, justement, par exemple, par rapport à ce désert-là, y aller plusieurs fois ou répéter le geste, répéter l'action, venir avec une caméra qui, en fait, voilà, si on doit parler technique, ben, les noirs, c'est pas terrible. Et puis, comme on veut filmer de nuit, alors comment on fait, etc. Qui sont des choses qu'il y a 10 ans, je n'aurais pas réussi à faire. Mais aussi pour des questions technologiques, puisque le matériel évolue. Et voilà. Donc,
Après, dans ton travail, il y a quelque chose qui s'incarne, pour avoir vu les films récents. Quelque chose de l'ordre, enfin, je pense, le travail de Pauline, quelque chose de l'ordre de l'incarnation qui, dans Follow the Water, s'affirme, justement, entre le discours et sa mise en scène.
Incarner, alors justement, incarner. Peux-tu donner un exemple enfin...
Bah, je pense que c'est ce qu'il y a de plus difficile en art ou en cinéma, c'est incarner une idée. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé d'intuition. Enfin, voilà, il y a un terrain, ici c'est l'Atacama, il y a une intuition, il faut rendre compte de cette controverse. Alors, différentes méthodologies s'offrent à nous. Là, on a dit cinéma, enfin, ou différentes approches. Et incarner, c'est réussir à rendre compte, mais par la forme, quoi. Hein, c'est une pure question artistique.
Oui.
Exactement. Mais ça, c'est vachement intéressant. C'est ça que je trouve intéressant.
Mm-hmm. Oui.
De rendre. C'est ça le pied dans l'art. C'est arriver avec le contenu intellectuel, conceptuel, à le rendre opérant
palpable.
Par exactement le contenu formel.
Mm-hmm. Sensible, moi, je dirais. C'est de l'ordre du sensible parce que la forme aujourd'hui est. Enfin, échappe tellement au registre qu'on est en train d'inventer aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est, on n'est même pas en capacité de savoir ce qu'est l'art aujourd'hui, mais on sait que c'est de l'ordre du sensible et pas de l'analytique scientifique. Quoi.
Moi, je ne suis pas d'accord parce qu'en fait, il y a un manque incroyable dans la plupart, dans un grand nombre de productions artistiques. Il n'y a pas assez de travail sur la forme. Il y a donc, s'il n'y a pas une pureté de la forme ou l'aboutissement de la forme, la sensibilité ne peut pas exister.
Oui, mais je parlais plus de méthode du sensible, parce que ça reste plus ouvert, parce que la forme reste à inventer, probablement. C'est à ce titre que, en tous les cas, la dimension de la forme étant tellement à inventer qu'elle n'est pas la finalité absolue. Elle se crée par le biais du sensible, en tous les cas, par une méthode différente. C'est ça que je veux dire. Parce que, on peut en parler à perte de vue, hein, Gilles, donc il n'y a pas de souci. Moi, je suis tout à fait disposée, mais c'est que on parle de changement de paradigme, changement de monde, se transformer. On ne sait pas de quelle forme on parle. On va l'inventer, et donc c'est parce que notre méthode sera différente qu'en tous les cas, on pourra probablement y arriver. En tous les cas, c'est évident qu'on cherche autre chose qu'une analyse mathématique ou sociologique ou je ne sais. Et c'est cette autre chose dont on parle depuis tout à l'heure. Mais difficile de le qualifier très exactement.
Mais au fond, par exemple, parce que j'ai votre question, parce que des fois on n'arrive pas à répondre tout de suite, mais par exemple sur la question de l'outil, je pense que ce qui s'améliore et ce qui est proche des pratiques aujourd'hui, c'est en fait le montage. Enfin, pour moi, là où moi, c'est ma partie préférée d'ailleurs, c'est au fond, et c'est aussi ça les trois écrans, c'est-à-dire. Parce que bon, mais tout d'un coup, techniquement, se dire sur trois, et en fait, parce qu'on revient avec une matière, il y a des choses qu'on avait écrites qui ne marchent pas, enfin qui ne marchent pas à l'épreuve, disons, de la timeline, du montage, et la technique de dire ah ben ça et ça, ça marche. Mais alors, la grande question du pourquoi ça marche ou pourquoi quelque chose se crée comme du sensible ou comme ça. Et ça, par exemple, je pense que c'est aussi quelque chose de l'ordre du travail contemporain, du montage, c'est-à-dire comment on remonte et comment on remonte des éléments du réel et quelle est la. Quelle est par exemple, la plus-value de trois écrans, comment ça se travaille et comment au fond, par exemple, une chanson chantée par un gardien de mine, tout d'un coup, prendre l'espace, fonctionne en résonance avec les autres et puis prend comme ça tout l'espace du centre et puis rayonne à d'autres endroits, parce que c'est un son qui se retrouve à d'autres endroits. C'est pas vrai. Ouais. Formellement, je crois qu'il y a aussi quelque chose de très contemporain dans cet accès à trois écrans qui se rencontrent et qui forment un tout.
Pour Gilles, je me permets, je sais bien que ce n'est pas sur toi que je rebondis, mais c'est pourquoi j'ai tendance, pour ma part, à évoquer la notion de sensible en tant que process, méthode, etc. C'est qu'on est aussi dans cette période de l'intelligence artificielle en déploiement. On a en imaginant aussi et en fantasmant certainement à ce que l'art puisse prendre aussi un tel chemin et justement en arrimant la question des formes, c'est-à-dire ce que l'intelligence artificielle arrive à produire, c'est typiquement des formes mais qui sont déjà encodées, on va dire, dans notre propre histoire, alors que en réalité, tout ce qui est intéressant dans l'art, c'est ce qui n'est pas déjà existant et ce qu'on peut toujours faire advenir et qui serait de l'ordre de l'accident et en tous les cas pas de l'ordre. Ben voilà, donc moi j'ai plutôt tendance à vouloir mettre à distance l'intelligence artificielle sur le plan artistique, j'ai plutôt tendance à choisir des mots différents. C'est ma protection à moi de me dire, bon, ben l'art, il a toujours cette, si ce n'est pas cette efficience, cette énergie incroyable qui permet de transgresser toutes ces balises qui nous entourent. Donc le sensible est pour moi une manière de l'exprimer davantage, mais après ce sont des mots et une fois encore les mots sont ce qu'on en fait et au fur et à mesure mais c'est pour m'expliquer par rapport à ça. Alors vous savez qu'on arrive à la fin, plus au-delà de ce qu'on s'était donné comme temps.
Je crois qu'il y avait une question
pour
terminer.
En fait, parce que vous parlez de la continuité en fait, donc c'est alors si c'est terminé, c'est terminé, mais comme du coup vous abordiez les questions de la suite et qu'on était aussi un peu là pour vous faire réfléchir. J'avais juste envie justement de vous entendre sur vos envies ou vos attentes sur la suite en fait et déjà éventuellement déjà des projets qui sont en cours ou des choses comme ça. Voilà.
Bah, vous faites mon rôle, c'est parfait. Je vous remercie. Allez-y.
Bah, le Follow the Water se termine sur l'arrivée sur Mars. Donc je pense que c'est un point de départ. Mais ça, enfin, pour autant, ça ne veut pas dire qu'on va aller sur Mars.
Non, on a
on va aller en Californie.
L'idée, c'est d'avoir trois autres étapes, comme ça, trois autres terrains de recherche. Enfin, le premier, c'est l'Atacama. Le deuxième serait plutôt aux États-Unis, autour de la NASA, etc. Et un troisième qui est en route en Europe de l'Est. Enfin bon, bref, tout ça est un peu une musique d'avenir, mais en tout cas, l'idée, c'est d'avoir un travail qui se déroule dans la durée, d'avoir aussi un cycle de rencontres et de croisements autour de ces questions-là et de plusieurs étapes comme ça de mise à disposition ou de restitution du travail en cours dans ce grand projet.
C'est simple de rencontrer des gens sur place. Vous avez rencontré des gens importants,
Dans le désert, chacun, vous voulez dire
chacun.
Mmh. Oui, bah, oui, c'est enfin, facile, non, ça c'est du travail.
C'est plus facile de rencontrer Karen Louza, la militante, que Alejandro Boucher, le directeur financier de la mine.
Oui. Mais comme les milieux de l'art et les milieux économiques se croisent, en réalité, le directeur financier, je l'avais rencontré pendant la biennale au dîner qui suivait. Là. Okay. Un peu par hasard, d'ailleurs, c'était assez étonnant, mais comme tout est lié. Mais donc, le plan de table, vous savez, il y a souvent des galas, comme ça, le repas de la biennale, et je m'assois et je regarde. Ah, bonjour, et vous faites quoi? Et il me dit, je suis directeur financier. Ça, c'était SQM, et je me dis, waouh, ouais, génial.
Bah oui, en art, on aime beaucoup les directeurs.
Ça faisait 3 mois que j'essayais de rentrer en contact avec quelqu'un.
Incroyable.
Comme quoi, l'art.
Voilà, c'est presque un outil, là, mais dans le bon sens du terme. Ça nous permet d'avancer, en tous les cas. Mm-hmm. C'est bon pour vous ?
C'est très bien.
C'est bon pour vous. Merci beaucoup pour ces belles questions. Hein.
Ouais, merci.
Merci à vous deux, évidemment. Donc, la suite, bientôt, avec l'IAC, de toute façon, et son laboratoire espace-cerveau, parce que là, on est sur une vision micro, mais on poursuivra la collaboration. Donc, à bientôt. Et à bientôt. Merci beaucoup.